Nous vous prions que ta parole, ça touche nos cœurs. Nous voulons te répondre, Seigneur. Te donnons nos cœurs en entier. Nous t'aimons comme tu nous aimes. Nous voulons aussi nous aimer les uns les autres. Nous te donnons nos cœurs ce soir, Seigneur. Qu'il soit doux pour toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur.
Amen.
Te donnons nos cœurs. Prions que tu fortifies l'homme intérieur de chacun de
nous. Praise the Lord for his teaching.
Oui, le Seigneur pour sa parole.
John, in his epistle, shows us.
Jean, dans ses épîtres, nous montre que Dieu est la lumière et il est aussi l'amour. C'est vraiment deux attributs magnifiques de notre Seigneur. Il est amour et lumière. Pour nous, de courir la course sans amour et sans vie, ce n'est pas possible. Sans la lumière, on est dans les ténèbres. On ne voit pas où on va. Mais on a aussi besoin de l'amour. La lumière sans l'amour ne suffit pas. Et l'amour sans la lumière n'est pas suffisant. On a besoin des deux. La lumière et l'amour. Et on a vu que Dieu est amour. Dieu est lumière. Et j'apprécie vraiment que Dieu est aussi amour. On peut voir que l'amour est la nature divine. Et on peut voir son amour dans toutes ses œuvres, comme on a vu hier soir. Rien que dans sa création, on peut voir son amour. Dieu n'a pas créé l'homme le premier jour, sinon ça aurait été compliqué, ça aurait été un désastre. Mais après qu'il ait tout créé, ce dont on a besoin, tout ce dont on a besoin, pas juste pour notre survie, mais aussi pour notre appréciation.
I wrote down here in 1 Timothy 6:17. He gave us richly all things to enjoy.
Nous a donné toutes choses pour les apprécier.
Not for the cats, not for the dogs.
Pas pour les chats et les chiens. Pas pour des prunes en
John said he's never seen a monkey eating breakfast with us. Or an animal.
Est-ce
it was
que...
so rich. You know, just eating breakfast, we can sense the love.
Juste en mangeant le déjeuner, ça peut être si riche. Des baies, on a du beurre, des œufs, plein de choses. On prie Dieu pour les magnifiques choses qu'il fait dans sa création. Et on peut aussi voir son amour. Pour son peuple dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il dit là? Deutéronome 7, 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, verset 8, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte.
This the Lord chose the children of Israel, not because they are great in number.
Le Seigneur n'a pas choisi le peuple d'Israël parce qu'ils étaient un grand nombre. Ce n'est pas une question de nombre, mais ils étaient assez rebelles même. Il dit même que c'était un peuple au cou rebelle, au cou raide. Mais il les a choisis par amour. Et aussi, non, Jérémie, 33:3. Pardon, 31:3.
The Lord has appeared of old to me, saying, "Yes, I have."
De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Amen. Seigneur nous aime d'un amour éternel. Même si le peuple était tellement rebelle, Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Et aujourd'hui, on est son peuple. Merci Seigneur pour son amour éternel. Seigneur m'a rappelé Romains 8:28. Romains 8:28.
Paul says, "For I am persuaded that neither death nor life nor angels."
8:38, pardon. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on est tous convaincus que l'amour de Dieu est éternel? Rien ne peut nous en séparer. Donc on voit que son amour est vraiment un amour inconditionnel, pas parce qu'on est bon, mais à cause de son grand amour. Et alors là, on voit son amour dans son œuvre de rédemption. Dans Romains 5, 6 à 10, je crois qu'il est bon de lire la parole, n'est-ce pas? Romains 5, 6 à 10. Car, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque nous étions très forts, puissants. Non, il dit lorsque nous étions encore sans force. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 8, c'est parce qu'on était si bon et juste. Où étais-tu? On était nulle part, on n'était nulle part là, dans tous les cas. Mais Dieu a montré son amour envers nous, alors que pendant qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et faisant Dieu, dit aussi, on était même morts. On était morts dans nos transgressions. On était dans la chair. Il nous a sauvés. Et le but, comme on a entendu, pas juste de nous aider, Le but n'est pas juste d'éviter le lac de feu, mais c'est vraiment de nous sauver, de faire de nous ses rois et sacrificateurs pour hériter le royaume. Et on peut aussi lire Apocalypse 21, 7, qu'on n'a pas encore lu. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. N'envions pas les gens qui sont riches. Un jour, on va tout hériter. C'est la promesse de Dieu. Mais on devrait être ses fils. On doit grandir. On va hériter toute chose. On doit grandir de enfant à héritier.
You love your children. And one day, are you going to give me your inheritance?
Est-ce qu'un jour tu vas donner un héritage à tes enfants? Oui. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils et nous allons hériter toutes choses. Mais, et encore une chose, c'est son amour pour l'Église. Éphésiens 5, 25.
Husband, love your wife.
Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 26. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Verset 29. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ne crois pas que l'Église soit juste quelque chose. C'est pas juste quelque chose que Dieu s'est dit, ah tiens, ben maintenant qu'il y a beaucoup de gens sauvés, on va faire une église. Ah ben tiens, on est beaucoup de chrétiens à Toronto, alors faisons une église. Non, dit Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire qu'il n'est pas juste mort pour sauver des pécheurs, mais il est vraiment mort pour sauver et gagner l'église. Mais là, il dit qu'il s'est donné lui-même pour l'Église. On voit cette image dans Genèse, déjà, avec Adam et Ève. Après qu'il ait créé Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Adam à être dans un sommeil profond. Et il est une image de Christ et l'Église. Ça montre que Dieu, dès le début, avait planifié l'Église. Même avant la chute de l'homme. Et donc la mort du Seigneur à la croix était aussi pour bâtir l'Église. S'est donné lui-même pour bâtir l'Église. Et quand le Seigneur a été percé à la croix, qu'est-ce qui est sorti de son côté? De l'eau et du sang. Le sang pour la rédemption et l'eau pour l'édification de l'Église. Et le Seigneur s'est aussi comparé à un grain de blé. Il n'y a pas de sang dans un grain de blé, n'est-ce pas? Mais quand il meurt, alors il peut porter beaucoup plus de fruits. Donc on peut voir que la mort du Seigneur est aussi pour l'Église. Et l'Église est son épouse. On doit aussi l'aimer en retour en tant que son Église. Il est digne de notre premier amour. On peut vraiment voir que toutes les œuvres de Dieu sont motivées par l'amour. Et c'est rempli de son amour. On devrait vraiment apprécier l'amour de Christ. Comme quand on chante son chant. Tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est vraiment normal que l'on demande à ça. On voit dans l'épître de Jean, il a dit que son amour devait être perfectionné. 1 Jean 1, 5.
2.
Mais l'amour de Dieu celui qui garde sa parole est vraiment perfectionné en lui. Je ne sais pas quel verset il a lu. 1 Jean 2, 5 à part. C'est l'attente de Dieu que l'on ait aussi un tel amour. Bien sûr, on a de l'amour déjà entre nous. Si on est mort, Et il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais nous, on a été créés à l'image de Christ. Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il peut être perfectionné. Son commandement, c'est qu'on devrait l'aimer. Avec tout notre corps, âme et esprit. C'est vraiment normal que l'on atteigne ce stade. Avec tout notre être. Et pour être vraiment perfectionné. On doit grandir dans sa lumière et dans son amour. C'est ce que Dieu nous enseigne à la minute même où on est sauvé. C'est ce que Dieu nous enseigne. Vous êtes enseigné par Dieu. Et je vous rappelle juste. Je vous rappelle juste. Et on a besoin que l'amour soit perfectionné. Ça doit être notre but. Est-ce qu'on veut atteindre le but? C'est pour ça qu'on doit être rempli de l'Esprit. Et 2 Corinthiens 5, 14. On devrait être contraint par l'amour de Dieu. Pressé par l'amour de Dieu. Il dit, vous faites ça en souvenir. De moi, un souvenir de ce qu'il a fait pour nous. C'est si facile d'oublier. Chaque premier jour de la semaine, on se souvient de ce que Dieu a fait. Son amour nous presse. Chaque matin, ça devrait nous amener vraiment plus près de lui. Pour qu'on se donne vraiment à lui.
And so that is in 2 Corinthians 5:14, maybe.
Et dans 2 Corinthiens 14, on peut voir cela. Il y a deux mots différents qui sont utilisés selon les traductions en anglais. Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, nous tous donc sommes morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. J'espère qu'on est tous pressés par cet amour du Seigneur, contraints par cet amour du Seigneur. Il nous a tout donné, sa propre vie, pour que notre réponse soit aussi de le gagner.
And then John continues to say that.
Et ensuite Jean continue de dire que si on aime Dieu, on va aussi s'aimer les uns les autres. C'est le deuxième et plus grand commandement.
So let's read 1 John chapter 4.
On peut lire 1 Jean 4. D'abord, j'aimerais mentionner un autre point.
It is 1
Jean 4.
John chapter 4, there is no fear in love, right?
Il n'y a pas de crainte dans l'amour.
Let's read from verse 7.
On peut lire depuis le verset.
Verse 17, yeah.
17.
Among us.
On voit que l'amour a été perfectionné en nous. Afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. On a ce chant qui dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si on voit ça, alors on aura vraiment de l'assurance. On n'aura pas peur. On n'ira pas au Seigneur, ne reviens pas maintenant parce que je ne suis pas prêt. Mais si on est perfectionné dans l'amour, alors on va faire ce qu'il lui plaît et on va éviter de faire les choses qui l'offensent. Être perfectionné dans l'amour est vraiment important.
We work out our own salvation with fear and trembling, like we are so afraid.
Travailler à votre salut. Trembler. Ce n'est pas qu'on tremble de peur, mais c'est une crainte inspirée par le respect. Si on est perfectionné dans l'amour, alors on aura de l'assurance.
Amen.
Qui que
one who loves the appearance of the Lord, right?
Il est un avec ceux qui aiment la révélation du Seigneur. Si on l'aime vraiment, alors par cet amour, la crainte est bannie. La crainte implique un jugement. C'est-à-dire que si on l'aime vraiment, c'est pour ça, c'est à cause de cette crainte que beaucoup de chrétiens disent qu'ils vont aller au ciel, parce qu'en fait, ils ont tellement peur de mourir. Mais en fait, si on a une telle réalité de cet amour, on n'a pas craint, on n'a pas de crainte de se tenir devant le trône du jugement. Parce qu'on n'a pas peur d'un châtiment. Mais tout notre être, corps, âme et esprit et force consacré au Seigneur. Quand il dit je vais vous montrer une voie par excellence, c'est l'amour. C'est vraiment ça, parce que l'amour est vraiment le moyen d'atteindre le but. L'amour sans la lumière ne convient pas. Parce que alors on va se corrompre.
So, now, what are the manifestations of love?
First of all, you will have the desire to preach the gospel. D'abord, on va avoir le désir d'annoncer l'évangile.
But even more so, we should preach the gospel out of love.
On devrait annoncer l'évangile, pas juste par nécessité, mais par amour. Seigneur est venu parce qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. C'est par amour qu'il a envoyé son fils. Donc aujourd'hui, on doit être perfectionné dans l'amour. Et c'est ça qui va nous guider à annoncer l'évangile. On aime les pécheurs, parce qu'on réalise qu'ils ont aussi besoin d'être sauvés. Alors, on ne va pas annoncer l'évangile parce qu'on doit. Ça ne marche pas comme ça. Si tu crois que c'est juste ton devoir en tant que chrétien de devoir aller annoncer l'évangile, le goût est différent, n'est-ce pas? Mais si on a cet amour pour les pécheurs, et on est conscient que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On arrive à la parfaite connaissance de la vérité. Nos amis, nos collègues, nos connaissances, nos familles, tous, on va leur parler par amour. Et alors dans 1 Jean, on dit que si on aime vraiment le Seigneur, dans Jean 3:17, et si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est quelque chose de très pratique. Si on voit notre frère dans le besoin et qu'il ferme notre cœur, alors comment est-ce qu'on se sent par rapport à Dieu? On prend soin les uns des autres, même dans des aspects pratiques. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ensuite, Jacques 4 nous dit qu'on devrait tous avoir ce même amour. Pas juste aimer ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont comme nous. Il y en a qui sont comme nous, on les aime plus facilement. Mais on ne devrait pas aimer avec partialité. Mais dans Corinthiens, il dit, on doit aimer même ceux qui ne sont pas si honorables. 1 Corinthiens 12, 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, c'est l'expression de l'amour les uns pour les autres. Si on aime de manière sélective seulement ce qui nous arrange, c'est quoi comme amour? Mais dans l'amour de divin, on a tous le même amour. On donne le même amour à tous. Je me dis, ah, je vais juste prendre soin de telle et telle parce que de telle partie de mon corps parce que c'est le plus important, ça va pas. Mais on doit avoir ce même amour impartial pour tous. Et alors, on a 1 Jean. Ouais, pardon, on a lu dans Jean. Où le Seigneur demande à Pierre, m'aimes-tu? Paix mes brebis. La deuxième fois, paix mes brebis. Et la troisième fois, paix mes brebis. C'est vraiment l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. De la même manière que le Seigneur l'a fait. Des fois, on aime juste enseigner, mais on a besoin de nourrir, de se nourrir les uns les autres. Nous nourrir les uns les autres. Peut-être qu'on n'est pas capable de s'enseigner les uns les autres. Pas tout le monde est capable d'enseigner, mais on est tous capables de nourrir et aussi dire la vérité dans l'amour. On a besoin de dire la vérité dans l'amour. Paul dans Colossiens 1, 27.
Can we preach? Warning every man.
28 en français. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il ne dit pas juste des mots sympas pour les saints, Paul, mais il les avertit aussi dans la vérité, en toute sagesse. Pas juste des enseignements, mais vraiment des avertissements. On devrait avoir un tel désir de s'encourager les uns les autres à atteindre le but, à être ses prémices. On n'est pas juste dans une course, on a vraiment besoin d'avoir aussi ce désir, juste des fois de prier les uns pour les autres. Juste prier, Seigneur, aide-moi à avoir une nouvelle voiture. Ou quelqu'un a perdu son travail. On peut prier, mais encore plus important, on a besoin d'avoir un cœur pour que les saints atteignent le but, soient perfectionnés. Pour les présenter, nous présenter tous devant le Seigneur. Et ensuite, encore plus important, prier les uns pour les autres. On a besoin de prier, intercéder. Pas juste pour nos besoins quotidiens. On prie pour beaucoup de problèmes, ceux qui sont malades. Mais combien de fois est-ce qu'on prie vraiment pour les besoins spirituels? Si on regarde juste à quelques exemples, dans Ephésiens, il dit deux fois qu'il prie pour eux. Il dit au premier chapitre qu'il prie. Verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je suis si content. C'est super, ils ont tous une bonne volonté. Alors, je peux les oublier. Non, c'est parce qu'il dit verset 16. Je ne cesse de rendre grâce. Je fais mention de vous dans mes prières. Pour qu'il soit perfectionné.
Voilà.
Amen. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. On voit sa prière vraiment. Et puis au chapitre 3 aussi, pour que l'on soit fortifié dans l'âme intérieure. Ce chapitre 3 ou 4. Pour cette raison, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On voit qu'on a vraiment besoin de prier les uns pour les autres pour être fortifiés dans notre âme intérieure, pour que le Seigneur puisse faire sa maison. On a vraiment besoin de prier d'une telle manière les uns pour les autres. Et moi, je réalise que j'ai besoin d'apprendre à prier pour les saints d'une telle manière. Au chapitre 1, quelle est la prière de Paul? Dieu m'est témoin, verset 8, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, et ce que je demande dans mes prières, on voit qu'il aime vraiment les saints. Que votre amour augmente de plus en plus. Il ne parle pas qu'ils aient plus de connaissances, mais que leur amour augmente de plus en plus. Avec pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Pour qu'au jour du Seigneur, on soit tous pris. On a besoin d'apprendre à prier d'une telle manière les uns pour les autres. Et encore dans Colossiens 1.
verse 9 again, right?
Verset 9 de nouveau.
He was talking about how good they're doing.
Il disait là combien les saints de Colosse allaient bien. Mais il ne dit pas « Ah, super, vous allez bien. C'est génial, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Ah, c'est bon. Ils vont bien. Je n'ai pas besoin de prier pour eux. Je vais prier pour ceux qui vont bien. Seulement pour Corinthe. » Mais même si l'église à Colosse allait bien, ils avaient besoin de prières. Pour cela, que nous cessons de prier Dieu pour vous, demandons que vous soyez remplis de la connaissance. Il dit pour c'est pour cela, que depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier du bon. On voit qu'il priait sans cesse pour les saints. Il n'est pas juste, je suis ravi de voir ce que le Seigneur fait en vous. Il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. On a besoin de prier les uns pour les autres d'une telle manière. Je crois que si on fait cela, alors on va vraiment voir beaucoup, beaucoup de choses. Le Seigneur peut faire bien plus que ce qu'on pense. Oh, il y a tellement de problèmes, ceci, cela. Mais non, on a besoin de prier d'une telle manière les uns pour les autres que le Seigneur nous perfectionne dans l'amour, perfectionne les saints dans l'amour. Et j'aimerais encore mentionner un verset. Oui, il parle d'Épaphras. Verset 12, chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Il travaillait vraiment dans la prière pour les saints. On a tendance à servir dans beaucoup d'autres choses visibles, pas tellement servir dans la prière, mais à cause de son amour pour les saints, il ne cessait de combattre pour eux dans la prière.
Pourquoi ?
Afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. C'est vraiment l'expression de l'amour les uns pour les autres. C'est bien de prendre soin des besoins physiques des saints, mais on a besoin encore plus de prendre soin des besoins spirituels des saints. Et alors, chacun de nous, on va y arriver. Le Seigneur va vraiment nous amener jusqu'au trône. Alors là, on pourra dire, ok. Amen.